Radio Kapi.
Les informations, Jocelyne Moussaoupondé. Le cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda doit être permanent. Message à Luanda du président sud-africain Cyril Ramaphosa a dit être en Angola pour remercier son homologue João Lourenço pour les efforts déployés en vue d'obtenir ce cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Report à une date ultérieure de l'élection du bureau définitif du Sénat, prévu initialement demain samedi. Le premier secrétaire rapporteur de la Chambre haute du Parlement évoque les contraintes sécuritaires et logistiques. L'invité de la rédaction, c'est le docteur Noah Mutangala. Depuis plus de 10 ans, ce gynécologue opère gratuitement les femmes fistuleuses. Bonsoir à tous. Le cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda doit être permanent. C'est l'essentiel du message de la visite à Luanda, en Angola, du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Dans une déclaration relayée par l'agence congolaise de presse, Cyril Ramaphosa dit être allé remercier son homologue João Lourenço pour les efforts qui ont été déployés en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Cette rencontre entre les deux chefs d'État a eu lieu hier jeudi. Le point avec Askenzik Biateur.
Cette dépêche indique que le souhait du président de l'Afrique du Sud revêt d'une importance capitale. Un cessez-le-feu permanent entre la RDC et le Rwanda peut permettre aux deux pays en conflit de continuer à multiplier des efforts pour renforcer les relations de coopération. Pour Ramaphosa, l'acte de paix obtenu pour faire taire les armes doit être célébré. C'est en ces termes, en tout cas, qu'il a remercié son homologue angolais João Lourenço. La dépêche précise que des questions de sécurité dans la région du SADC ont été aussi abordées lors de la rencontre entre les deux chefs de l'État. Il faut noter que le cessez-le-feu obtenu est en vigueur depuis dimanche dernier. Sa décision a été prise à la suite d'une réunion ministérielle entre les délégations de la RDC et celle du Rwanda sous la médiation angolaise.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, la situation est relativement calme. C'est vendredi autour de Sake, dans le territoire de Masisi, à 30 km à l'ouest de Goma. C'est après d'intenses combats ayant opposé, dans la soirée d'hier jeudi, les rebelles du 1-23 AFC aux combattants des groupes armés locaux. C'était précisément autour de Rutobogo, sur la route Sake-Mushaki. Bernard Danyangi nous fait le point.
Selon plusieurs sources locales, entre 13h et 15h locales, des armes ont crépité hier jeudi dans la zone de Rutobogo. Nos sources parlent d'autres échanges de tirs opposant les combattants locaux à un groupe d'hommes armés inconnus au centre de Sake vers 16h locales. La même journée, panique à la population civile. Côté bilan, ces sources parlent d'un taximène moto œuvrant sur l'axe Sake-Mushaki-Masisi qui a été tué et quelques autres civils qui ont été blessés dans la cité de Sake. Pendant ce temps, il a été signalé d'autres combats ayant opposé ce même jeudi les groupes armés locaux aux rebelles du 1-23 dans le village Kibougou. C'est près de Burungu, dans le groupement de Bachalu-Kaembe, territoire de Masisi, où une dizaine de maisons de civils auraient été incendiées. Ces affrontements interviennent alors qu'il devrait s'observer dans la région un cessez-le-feu ayant débuté le 4 août dernier, inscrit dans le cadre des accords conclus entre Kigali et Kinshasa sous la médiation de l'Angola. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Il ne revient pas au simple chef de quartier d'identifier les militaires et policiers détachés à Goma, tels que recommandés par la 34e région militaire. C'est la réaction de la société civile urbaine de Goma au communiqué de l'armée du 7 août dernier. Cette mesure recommande aux militaires et policiers détachés ou bien se trouvant en ville de se faire identifier auprès de ces cadres de base. Cette structure citoyenne parle de vice d'autorité. Denise Loukesso.
La 34e région militaire justifie cette mesure en raison des opérations de bouclage à venir. Ceci au regard de la montée de l'insécurité dans la ville, impliquant parfois des hommes en tenue militaire et policière. Colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de FRDC au Nord Kivu.
Il est recommandé à tous militaires et policiers habitant la cité, détachés ou s'y trouvant pour une quelconque raison particulière, de se présenter, munis de leurs armes, auprès des chefs de quartier en vue de leur identification.
La société civile de Goma salue cette initiative. Cependant, plusieurs questionnements demeurent quant aux pratiques d'accompagnement de cette mesure. Son président demande qu'il soit annulé simplement cette mesure et de confier ses travaux aux services attitrés de l'armée, tels que l'administration et la commission logistique.
Depuis quand un militaire se rend auprès d'un civil pour s'identifier? Comment le chef de quartier saura si les armes et munitions en type et en caractéristiques leur présentées sont celles réellement connues et détenues par le militaire et policier à partir du dépôt des armements?
Sur le terrain, les cadres de base déclarent qu'aucun document ni autre moyen logistique sont mis à leur disposition pour effectuer ces travaux. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Des salles de classe sont transformées en sites d'accueil des déplacés à Mazasai, chef-lieu du secteur portant les mêmes noms, au territoire de Bagata. Ils sont plus de 5200 déplacés, essentiellement constitués des femmes et des enfants qui vivent dans des conditions inhumaines, selon les données rapportées par l'administrateur du territoire, Amédé Mbangambouma, après le passage de Ocha et d'autres acteurs humanitaires. Ces déplacés sont à Mazasai depuis les mois de mai et juin dernier. Certains sont venus des villages Kingala Matele, chez Parking BRB et d'autres du groupement Kissia dans le village Kingala Mubenga, fuyant les attaques des miliciens Mobondo depuis ces premiers mois de l'année. Le député national élu de Bagata, Gary Sakata, invite le gouvernement à vite intervenir avant que ces vulnérables ne soient mis à la rue à la rentrée scolaire. On l'écoute dans cet extrait choisi par Alain Rung.
Et nous comptons à plus ou moins 5225 déplacés qui occupent actuellement 5 sites qui sont des écoles ainsi que l'ISP. Ils sont en train de craindre que bientôt la saison de pluie revienne, mais également la rentrée scolaire intervient très bientôt. Quel sera leur sort, se demande-t-il. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de faire diligence pour s'occuper de tous ces déplacés qui, à mon avis, sont les déplacés quasiment oubliés. L'aide humanitaire attendue doit être d'abord liée aux mousses pour leur permettre de dormir, mais également de l'aide normale alimentaire, mais surtout des manuels scolaires pour permettre à ces enfants pour commencer les cours ensemble avec les autres parce qu'ils sont autant des citoyens congolais et, si possible, pour ceux qui voudront ne plus retourner dans leur village respectif, leur donner des tôles pour qu'ils puissent construire ne fût-ce que des abris de secours ou encore des bâches, mais ça c'est tout à fait provisoire.
Élection des membres du bureau définitif du Sénat. La séance plénière initialement prévue pour ce vendredi consacrée à l'audition de messages de campagne électorale de candidats est reportée à une date ultérieure. Ce nouveau report est dû aux contraintes sécuritaires et logistiques selon un communiqué signé par le premier secrétaire rapporteur du Sénat. Alors qu'Ivan Kankonde annonce la publication dans les prochaines heures d'un calendrier électoral réaménagé, Augustin Kabuya convoque le présidium de l'Union Sacré pour finalisation du ticket de l'Union Sacrée aux différents postes du Sénat. Michel Kifindangoy.
C'est sur fond d'une forte tension et d'un désaccord autour des candidatures que se déroule le processus d'élection et d'installation des membres du bureau définitif du Sénat. Si au sein de l'Union Sacrée, l'UDPS est en désaccord avec les autres membres sur la candidature de Jean-Michel Samalokonde comme président du Sénat, au sein même de l'UDPS, le camp d'Augustin Kabuya s'est affronté mardi à celui des jeunes de la Vision Fachi sur la candidature d'Afani Idrissa qui vient court-circuiter celle de Jonas Munkamba. Après persistance des désaccords en son sein, la commission spéciale tranche de valider tous les candidats afin qu'ils soient départagés par le vote des sénateurs. D'après les sources sécuritaires au Palais du Peuple, aucun militant ne pourra accéder à la plénière portant vote des membres du bureau définitif du Sénat pour éviter des dérapages. En dépit de la publication de la liste définitive des candidats jeudi tard dans la soirée, le bureau provisoire décide de renvoyer la plénière de la campagne et de vote à une date ultérieure. Pour donner la chance à une élection apaisée, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, convoque ce vendredi une réunion du présidium afin de finaliser les tickets de l'Union Sacrée.
Le président du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice harmonisent leurs vues et stratégies pour traquer les criminels économiques et financiers au sein de l'appareil judiciaire. À cet effet, hier jeudi, Dieudonné Kamouleta et Constant Moutamba ont échangé dans les bureaux du Conseil supérieur sur le fonctionnement de la commission chargée de recevoir les dénonciations des justiciables et tout Congolais contre des magistrats véreux. Le ministre s'est montré favorable aux doléances des magistrats rappelées par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Constant Moutamba fait le compte-rendu de cet échange dans cet extrait choisi par Jeff Ngoy.
Il y a des citoyens véreux qui, malheureusement, salissent l'image de notre appareil judiciaire, qui est constitué, naturellement, des brillants, des gens honnêtes, vrais, mais dont le travail est parfois buté à cette difficulté des certains qui se livrent à des pratiques peu recommandables. Il est donc question de pouvoir recevoir des dénonciations au travers d'une commission que nous avons mise en place. À la suite de ces dénonciations, il va y avoir un travail de toilettage et les rapports finaux sera transmis au chef de l'État ainsi que au président du Conseil supérieur de la magistrature pour des sanctions exemplaires qui puissent dissuader les criminels économiques et financiers.
Autre nouvelle, tenue hier jeudi à Mbandaka d'une table ronde sur l'autonomisation de la femme de l'Équateur, une initiative de l'ONG AMASEC, Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, en collaboration avec Kinshasa News Lab et Internews. Elle vise, selon les organisateurs, à rehausser le niveau de vie de la femme, car son extrême pauvreté contraste avec les ressources naturelles de la province. La table ronde a formulé des recommandations dont la sensibilisation et le réseautage des femmes de l'Équateur. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Outre l'exposé sur le changement climatique, les participantes à cette table ronde ont également été formées sur la participation des femmes leaders aux activités génératrices de revenus. Au regard des multiples opportunités naturelles dans la province de l'Équateur, l'oratrice Ruth Bangané a invité ses congénères à bannir les us et coutumes pour s'unir et créer des unités de production solides et qui les affranchissent de la pauvreté.
La femme de l'Équateur s'élève très tôt matin. Elle va à la recherche de qui vivent, puis elle rentre que le soir. En tant que femme leader de l'Équateur, nous devons nous unir, donner des microcrédits entre nous, créer un réseau d'écoulement de produits avec les femmes rurales du village, de territoire, jusqu'au niveau de Kinshasa, voire même exporter. Nous voulons que ce leadership soit vraiment très fort.
Plusieurs participantes ont apprécié cette approche. Cependant, le chef de division provinciale du genre famille et enfants Équateur, lui, estime que le succès dépend de la mobilisation de toutes les couches féminines. Pichu Bomandeke.
Ces femmes-là qui se disent leaders, ils doivent faire participer d'autres femmes. Parce qu'on ne peut pas seulement rester avec une catégorie de femmes et qui sont privilégiées. On aura un peu beaucoup de femmes qui seront autonomes.
Bondaka, prochain Malingela, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, plus de 1000 hectares d'arbres ont été plantés en 2 ans autour du parc national de Virunga dans les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru et Nirangongo. Ce reboisement s'inscrit dans le cadre du projet Climat Virunga mené par le parc national de Virunga avec le soutien financier et technique du jardin botanique de Meise et de la région flamande de Belgique. Ce projet encore en cours vise à planter 1500 hectares d'arbres pour promouvoir la réforestation et lutter contre le changement climatique. Selon Bienvenue Bouende, porte-parole de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ce projet qui implique les communautés locales a permis de créer des emplois et renforcer les relations entre les communautés riveraines et le parc national de Virunga. Il explique au téléphone d'André Kitenge.
L'objectif du programme est d'atténuer les effets du changement climatique en améliorant la gestion de ressources naturelles et en préservant la biodiversité exceptionnelle du parc national de Virunga. Avant la guerre, dans les territoires de Rutshuru, avec les communautés locales, nous avons réussi à mettre en place une forêt communautaire de près de 150 hectares. Et ça, vraiment, c'est une forêt communautaire à conservation intégrale. Et nous avons réussi à planter 90 hectares de bois énergie qui ont été plantés juste département pour soulager la pression et la demande en bois énergie qui pèse sur le parc national de Virunga actuellement. À Goma, c'est les fameux Mont Goma et les cimetières désaffectés des litiges qui ont été reboisés dans le cadre de ces projets. Il faut noter que ces projets, c'est près de 40 associations locales qui ont jusque-là participé. Et il s'agit justement des associations qui sont composées de femmes, de jeunes, de personnes venues de groupes armés. Et l'implication des associations locales permet ainsi de créer de l'emploi et de renforcer les relations entre les communautés riveraines et le parc national de Virunga.
En sport, l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, a tiré sa révérence hier jeudi en France, un jour de son 78e anniversaire. Moïse Katumbi, le président du tout-puissant Mazembe, a dans un message posté sur son compte X exprimé sa profonde tristesse en indiquant que le monde du football africain pleure la perte d'un grand dirigeant reconnu pour sa générosité, son esprit chaleureux et son dévouement inébranlable envers le sport. Moïse Katumbi a aussi émis le vœu de voir les valeurs d'amitié, de fraternité et de partage que le défunt a cultivé toute sa vie, continuer d'inspirer tous les responsables de la CAF.
Actualité internationale.
Le Mali ordonne à l'ambassadrice de Suède de quitter son territoire sous 72 heures après des critiques sur la coupure des relations entre Bamako et Kiev. Et en Centrafrique, l'utilisation des faux billets de banque prend de l'ampleur à Bangui. Des opérateurs économiques et des individus se disent victimes des billets contrefaits. Un réseau de faussaires a été démantelé et ses membres arrêtés mercredi dernier avec une somme de 47 millions de francs CFA, soit 73 000 euros.
L'invité.
Le docteur Noah Mutangala est notre invité. Depuis plus de 10 ans, il opère gratuitement les femmes qui souffrent de la fistule vésico-vaginale. Il demande à toutes les femmes qui en souffrent de briser la honte et de se faire soigner pour retrouver leur dignité. Le docteur Noah Mutangala s'entretient avec Jean Gandou.
Docteur Noah Mutangala, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
À ce jour, dans la province du Haut-Katanga ou à Lubumbashi, il y a combien de femmes fistuleuses?
C'est une donnée qui n'est pas mise à jour. C'est justement, c'est ça le problème même, parce qu'on n'a pas de données statistiques précises par rapport à ça. C'est une maladie de la honte, c'est un tabou.
Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, vous en avez déjà opéré combien?
Depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, nous sommes à 52 cas.
Ce sont les femmes qui sont venues principalement de quel coin?
Nous avons des femmes qui sont venues du Haut-Katanga et des femmes qui sont venues de la province du Lualaba, les femmes qui sont venues de la province du Olomami, il y a des femmes qui sont venues de la Zambie et il y en a une qui est venue de l'Angola.
Pour toutes ces femmes, les causes sont les mêmes?
Les causes sont essentiellement les mêmes, ce sont des causes obstétricales. On a eu deux cas de causes qui étaient traumatiques.
Dû à quoi?
Il y a eu un traumatisme chez une petite fille de 6 ans, dont le partenaire de sa maman qui l'a violée.
Et toutes ces femmes, lorsque vous les opérez, est-ce qu'elles retrouvent leur dignité après?
Justement, comme vous le savez, rejetée de la communauté, reprise en opération, l'opération ayant réussi, elles recouvrent leur vie de femme. Et une femme qui ne dégage plus de mauvaises odeurs, donc sa dignité est revenue, parce que la place de la femme, c'est à la maison et non pas être rejetée par la communauté. Elle est la courroie de transmission entre les enfants et les maris.
Est-ce que les femmes que vous soignez sont des messagères auprès d'autres femmes qui souffriraient de la même maladie mais qui ont honte de se faire voir, de se faire connaître pour qu'elles puissent elles aussi recevoir les soins nécessaires?
Et justement, nous avons un réseau d'ambassadrices par rapport à la thématique de la fistule. Ce sont les femmes qui ont été opérées guéries, qui travaillent gratuitement dans ce sens-là pour collecter aussi les données sur les autres femmes qui sont éparpillées et elles en font une publicité dans leur communauté.
Et une fois venues, comment s'est fait la prise en charge?
De ce côté-là, elle est gratuite, mais généralement, elles arrivent dans un mauvais état général du point de vue nutritionnel. Nous nous battons pour essayer de leur donner le nécessaire pour remonter l'état général, afin qu'elle soit éligible à la chirurgie. Comme vous le savez, la chirurgie, c'est aussi un traumatisme lorsque l'état général n'est pas bon.
Dans l'est du pays, on a parlé une fois que les femmes fistuleuses le sont par l'effet des conflits, la guerre. mais dans les Haut-Katanga, en dehors du cas particulier que vous avez évoqué, du viol de la petite fille par son père, et les autres cas, c'est dû à quoi?
Les autres cas, parfois aussi, ça peut être une mauvaise manipulation des opérateurs. Hein. Normalement, des médecins qui n'auront pas été assez outillés, encadrés pour la prise en charge, par exemple, de la césarienne, ça peut arriver. Ou encore de médecins qui ont tenté de faire des hystérectomies.
Ça veut dire quoi?
L'ablation ou le fait d'enlever la matrice pour une maladie donnée, ça peut aussi arriver à ça.
Et quand vous remarquez de telles choses, qu'est-ce que vous faites auprès de vos compères?
Pour commencer, d'abord, je suis président de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de Lubumbashi. À ce titre, lorsque nous allons dans nos conférences, nous essayons de faire la revue de tout ça, faisons un rendu de nos trouvailles sur le terrain par rapport à la pratique.
Vous arrive-t-il aussi de sanctionner ceux qui auront commis des fautes professionnelles?
Il faut les retracer. À ce titre, je suis membre du Conseil provincial de l'Ordre des médecins. Un confrère qui serait fautif, qui poserait une faute professionnelle, il faut retracer, il faut trouver les preuves, il faut documenter ça. Si on trouve que réellement il est fautif, la sanction peut venir.
Pour terminer, docteur, il y a beaucoup de femmes qui vous suivent, qui aimeraient peut-être aussi bénéficier de ces soins, mais qui ne savent pas se faire voir par la honte, parce que vous avez dit que c'est une maladie de la honte. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour bénéficier également de ces soins gratuits? Et vous le faites selon quel programme?
Vous constituez un canal assez précieux pour nous, pour permettre à ce que le message soit porté plus loin, afin que les femmes là puissent venir vers nous. Il n'y a pas un programme précis. Nous les recevons de manière routinière. Lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles sont éligibles, nous pouvons les prendre en fonction de leur état général.
Elles vont à la polyclinique Benicker?
Justement, polyclinique Benicker qui est située au quartier Jolicite, sur route Kinsevere, à hauteur du poteau numéro 16. Tout est gratuit, et je le répète, je confirme, c'est gratuit. La polyclinique, on est pratiquement à la 10e année, nous le faisons gratuitement, et moi je suis dans la pratique, ça fait déjà 17 ans, et je le fais gratuitement.
Docteur Noam Tangala, je vous remercie.
C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'opportunité.
Ainsi prend fin ce journal. Alain Irung l'a coordonné et Jean-Noël Mokondo l'a mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet radiocapi.net.